Je me souviens très bien de la publicité Grand Optical. Vous savez, la publicité qui vous proposait une réduction équivalente à votre âge, moins 60% quand vous aviez 60 ans, moins 80% quand vous aviez 80. Je m'en souviens très bien parce que je tannais alors mon grand-père qui avait 108 ans, mon grand-père que j'embrasse s'il m'écoute de là-haut, pour qu'il aille s'acheter des lunettes avec moi, histoire que Grand Optical lui donne de l'argent. Bah oui, 108 ans, il aurait eu une réduction de 108%, donc on lui aurait donné 8% du prix des lunettes. Mais mon grand-père n'a pas voulu, il n'avait pas besoin de lunettes pour lire l'humanité. Et bien aujourd'hui, c'est un peu ce qui arrive à des ménages français qui ont emprunté en francs suisses. Ces ménages ont contracté un emprunt en francs suisses avec un taux d'intérêt variable. Entre-temps, le franc suisse s'est apprécié de 20% et la Banque nationale suisse a fortement baissé ses taux directeurs. Conséquence de cette politique, ces ménages bénéficient d'un taux d'intérêt à 3 mois de moins 0,8%, je répète, moins 0,8%. Un taux d'intérêt de moins 0,8%, cela signifie que vous payez quelqu'un pour qu'il accepte de vous emprunter de l'argent. Alors, c'est un peu conceptuel, mais ça consiste à dire, en quelque sorte, je te prête 1000 euros et je te donne 80 euros en plus pour accepter mon argent. Alors, bien sûr, les banques suisses ne voient pas exactement les choses de cette façon. Pour le moment, elles se font tirer l'oreille pour appliquer des taux d'intérêt négatifs. Elles acceptent au mieux de ne pas appliquer d'intérêt. Mais si l'on s'en tient à la théorie pure, les Suisses viennent d'innover. Jusqu'à présent, on savait que l'on pouvait s'enrichir en dormant. On sait maintenant que l'on peut s'enrichir en empruntant.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Et l'on peut également s'enrichir en apprenant le latin et le grec. Et c'est la raison pour laquelle j'ai réuni trois personnes emblématiques de différentes manières d'appréhender le latin et le grec. Je vous les présente. Tout d'abord, François-Xavier Bellamy, bonjour. Vous êtes professeur de philosophie et vous avez notamment publié Les déshérités ou l'urgence de transmettre. En face de vous, Augustin Dumière, bonjour. Vous êtes professeur de lettres classiques au lycée Jean Villard de Meaux. Vous êtes fondateur en 2003 de l'association Métis, un réseau de solidarité entre anciens élèves et lycéens, collégiens et écoliers de grandes banlieues qui promeut notamment l'apprentissage du grec et du latin comme vecteur d'égalité des chances. C'est quelque chose effectivement d'inattendu. Vous nous expliquerez pourquoi. Et vous considérez que le grec et le latin peuvent être un facteur d'égalité. Et puis enfin, Florence Dupont, bonjour. Vous êtes bonjour. Professeure émérite à l'université Paris Diderot. Vous êtes fondatrice de l'association Antiquité et Territoire des Écarts. J'ai lu dans un magazine que vous faisiez partie des derniers grands antiquisants en français. Moi, j'aime pas du tout derniers grands antiquisants, puisqu'on vous souhaite longue vie, mais vous êtes aux côtés de Pierre Vidal-Naquet, de Jean-Pierre Vernant ou de Jacqueline de Romy, avec vos singularités, votre manière d'appréhender le latin et le grec. Vous êtes des meilleures connaisseuses de ces deux langues et vous avez une conception, neuve en quelque sorte, du grec et du latin. Expliquez-nous pourquoi, selon vous, il faut apprendre le grec et le latin, indépendamment même du fait que ces langues remonteraient à l'origine de notre civilisation, puisque c'est souvent ce que l'on dit, c'est une idée reçue, Florence Dupont.
Oui, il y a bien des façons, comme vous l'avez dit, d'appréhender ce monde. C'est justement pas à l'origine, enfin c'est bon, à la suite effectivement d'une perception anthropologique de l'Antiquité. C'est pas l'origine, c'est un héritage, mais que nous avons en commun avec toute la Méditerranée. Je crois que c'est assez important, parce que apprendre le grec et le latin, c'est aussi créer un monde commun avec toute une partie des enfants issus de l'immigration. Je crois que c'est très important de leur dire, vous aussi, vous êtes les héritiers, vos ancêtres parlaient la même langue que nous. Hein. Et de même que le ministre, qui nous vaut cette mésaventure, avait des ancêtres qui parlaient le latin, et peut-être même le grec, comme aussi ceux qu'on appelait, enfin, qui étaient romains, mais qui étaient aussi gaulois, de l'autre côté de la Méditerranée. Donc je crois, de mon point de vue, c'est extrêmement important de partir de là. Et si on supprime, dans la pratique, on va réserver l'enseignement du latin et du grec, en fait, aux grands lycées de Paris et des grandes. En fait, on prive donc tous ces gens-là, tous ces enfants qui sont nos très très lointains cousins, de leur héritage.
Vous avez écrit un ouvrage qui s'intitulait Homère et Dallas. C'est un ouvrage qui, là aussi, s'attaquait à une idée reçue, puisque vous expliquez finalement, Florence Dupont, qu'il n'y a pas véritablement de coupure entre une culture cultivée qui s'adresserait à l'élite et la culture populaire, et que l'on peut très bien considérer que le grec et le latin sont pour tous vraiment.
C'est-à-dire qu'en fait, à notre époque, il y a une coupure. De fait, dans l'Antiquité, il me semble, on peut discuter, qu'il n'y avait pas cette coupure, hein, aussi bien à Rome qu'à Athènes ou dans la lointaine Ithaque, hein, et qu'effectivement, on avait une toute autre conception, une pratique et de la culture. Tout le monde chantait ensemble, si je peux dire, ou écoutait ensemble des performances. Mais bon, ça, c'est ce que j'ai fait personnellement avec d'autres amis, c'est-à-dire avoir une autre approche qui ne veut pas dire hostile, hein, à celle des autres, une autre approche, hein, de l'Antiquité, une peut-être plus populaire, plus orale, plus vivante.
Je vais le dire avec mes mots, il y a eu donc de grands antiquisants, je parlais de Jacqueline de Romilly et de Jean-Pierre Vernon. On peut dire que Jacqueline de Romilly incarnait peut-être une tradition conservatrice de l'apprentissage du grec et de latin, peut-être que Jean-Pierre Vernon incarnait plus une vision de gauche. Est-ce que vous êtes plutôt dans cette conception de gauche, Florence Dupont ?
Alors oui, vous introduisez une idée qui va peut-être étonner les auditeurs. C'est vrai que l'enseignement du grec et du latin a aussi une dimension politique. Et donc, effectivement, mais bon, pas seulement. Ça, c'est moins à cause des opinions politiques que j'ai travaillé, que je continue à travailler dans le centre créé par Jean-Pierre Vernon et Vidal Naquet, que parce qu'il a une perspective anthropologique qui consiste à mettre l'Antiquité à distance, d'où à écart, hein, et avec une formule qui, bon, exprès provocatrice, qui est une façon de dire les anciens sont les nègres de l'intérieur.
François-Xavier Bellamy, si je vous ai demandé de venir à cette émission, c'est parce que vous incarnez plutôt une conception, on va dire, conservatrice de cet amour des belles lettres et de cet amour de l'Antiquité. Et c'est la raison pour laquelle vous considérez qu'il faut défendre, évidemment, le grec et le latin.
Mais je ne crois pas qu'on puisse opposer deux manières de défendre le grec et le latin. En réalité, il y a des générations de latinistes et d'hellénistes qui ensuite ont eu des engagements personnels très divers et très variés, et pour lesquels l'apprentissage du latin et du grec a été l'occasion de rencontrer l'expérience démocratique avec des points de vue différents, de faire germer même dans leur perspective personnelle et dans leur histoire intellectuelle des regards différents sur le monde. Le latin et le grec ne se laissent pas emprisonner, je crois, dans des clivages politiques qui leur sont bien étrangers. De fait, on ne peut pas être conservateur dans le rapport à la culture, parce que la culture n'est jamais conservée que pour être transmise et pour rejoindre notre expérience dans son actualité et dans sa fécondité pour aujourd'hui. Et je crois malgré tout que si on ne transmet pas, c'est vrai, cette culture que l'on a reçue, on ne la conserve pas non plus. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi de la réflexion que nous partageons ce matin. Si le latin et le grec ne sont plus transmis dans nos collèges et dans nos lycées, alors qui demain pourra les enseigner, qui demain pourra les conserver, qui demain pourra garder le sens de cette fécondité de notre propre héritage commun.
Mais enfin, François-Xavier Bellamy, il y a quand même aussi une autre conception du latin, par exemple celle de Brassens, vous savez, la messe en latin, enfin, voilà, c'est aussi un héritage, c'est un héritage qui est tout aussi digne que d'autres héritages, mais il inscrit l'apprentissage du latin et du grec aussi dans une conception très traditionnelle de la société de la France.
Ça nous renvoie bien sûr à notre histoire proche, à notre histoire ancienne. Le latin, le grec ont forgé notre langue, ont forgé notre culture. Évidemment, le latin dans sa dimension religieuse, mais aussi le grec qui a contribué à la théologie, à la philosophie, ont structuré nos représentations du monde. Et d'une certaine façon, d'ailleurs, connaître le latin et le grec, c'est donner à nos élèves l'occasion de prendre de la distance par rapport à cet héritage, de se l'approprier, mais aussi de cultiver à son égard une authentique liberté.
Barbara nous appelle du Béarn. Bonjour Barbara.
Oui, bonjour.
Le Béarn est une province qui a eu droit à la loi romaine le plus tard possible. C'est peut-être pour ça que vous nous appelez de là-bas. Peut-être que le latin est votre langue maternelle, Barbara.
Oui, oui, tout à fait. Moi, je voulais vous apporter un témoignage parce que j'ai fait pas mal de latin au collège et au lycée, enfin quatrième, troisième, seconde, où on faisait faire beaucoup de versions et de thèmes de textes anciens, et ça me semblait très très loin de moi. Et il se trouve qu'aujourd'hui j'ai 35 ans, j'ai repris mes études l'année dernière, j'ai fait une licence professionnelle à l'université de Pau en sciences de l'éducation, une super formation, dans laquelle j'ai fait de l'étymologie et où on raccrochait vraiment la langue française des racines latines et grecques, et j'ai trouvé ça passionnant. Alors il y a mon âge bien sûr, mais je pense réellement que si on enseignait comme ça au collège et au lycée aux jeunes la langue latine et grecque en faisant des ponts avec la langue française, ça leur permettrait une ouverture et un amour vraiment de la langue française, et ça leur permettrait de prendre beaucoup moins leur dictionnaire.
Augustin Dumière, merci Barbara pour cette remarque. Est-ce qu'on pourrait rendre l'apprentissage du grec et du latin plus proche des préoccupations des individus? Nous demandait Barbara, par exemple, en insistant sur l'étymologie.
Si jamais on ne les rendait pas plus proches des préoccupations des individus, je pense qu'il n'y aurait pas aujourd'hui 500 000 d'enfants qui font du grec et du latin, alors que depuis 30 ans, le grec et le latin sont dans la cible de toutes les réformes, de droite ou de gauche, qui sont faites sur l'école. C'est Luc Chatel qui avait supprimé le CAPES de lettres classiques.
Autrement dit, un ministre du gouvernement précédent.
François-Xavier Bellamy parlait de la nécessité de transmettre. Aujourd'hui, un professeur de collège sait que s'il s'en va, ou la professeure de collège qui serait éventuellement en congé maternité, sait qu'il n'y a personne derrière. Maintenant, ce qui complique encore plus les choses, c'est que on est obligé d'aller au devant, mais ça fait longtemps et c'est plutôt une bonne chose, au devant d'élèves qui n'ont jamais fait de grec et de latin. Et je crois que cet enseignement du grec et du latin, il a considérablement évolué. Et que cette capacité à le faire comprendre, à mon avis, est la clé de la survie du grec et du latin. Il suffit de pousser la porte d'un lycée parisien pour voir qu'aujourd'hui, les classes d'élite sont les classes de chinois, les classes européennes, et plus du tout les classes de grec et de latin. Aujourd'hui, un élève au lycée, il a le choix. Si jamais vous ne rendez pas immédiatement le grec et le latin intéressant à cet élève, c'est très simple, il choisira autre chose. Donc la démarche de beaucoup de professeurs de lettres classiques aujourd'hui, c'est d'aller dans les classes de 6e, dans les classes de 3e, en disant regardez, ça existe et voilà à quoi ça va vous servir dans la maîtrise du français. Aujourd'hui la maîtrise du français, elle est acquise par une minorité d'élèves. Dans la maîtrise des langues vivantes, aujourd'hui les langues vivantes, je crois que la France est quasiment dernière de l'Union Européenne, et à acquérir une culture générale, et on voit dans la société d'aujourd'hui combien c'est intéressant. Ce que complique la réforme de Madame Vallaud-Belkacem, c'est que en plus, maintenant, il va falloir demander à cet élève non seulement de faire du grec et du latin, mais si éventuellement ses parents veulent bien aller faire un sit-in devant le bureau du proviseur. Ça fait quand même beaucoup à demander dans la même séquence.
Eh bien, on va voir pourquoi cette situation est inédite en France, tout simplement parce que dans d'autres pays, on n'a pas du tout la même perception du grec et du latin. Et finalement, malgré toutes les histoires qu'on se raconte, nous Français, on a du mal à faire vivre notre héritage. On va tout d'abord écouter Kendrick Lamar, Aïe, un disque choisi par Olivius Bétarus et Thierry Dupinus. This is a world, this is a world premiere. This is a world premiere. I done been through a whole lot. Trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many, many ways you wanna tell me. But enemy gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me. And I love myself. The world is a ghetto, big guns and big inside. But they can do what they want when they play one, I don't mind. I love myself. He said I gotta get up, life is more than suicide. I love myself. One day in the ground, sun go shine. Everybody looking at you crazy, crazy. What you gonna do? Lift up your head and keep moving. Or let the paranoia haunt you. Peace to fashion police, I wear my heart on my sleeve, let the runway start. You know the miserable, do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confidence, everybody lack confidence. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this, I love myself. The world is again on big guns and dicky signs. I love myself. But they can do what they want whenever they want. Police and a rock on a corner and a line full of fiend and a bottle full of lean and a model on a scheme, yep. These days of frustration keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up, feed 5-4 for basis. Dreams are reality's peace. Blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry now. The strong in me, I still smile. I love myself. The world is a ghetto, big guns and chicken fries. I love myself. But they can do what they want whenever they want. I don't mind. I love Public sur France Inter, à quoi servent le latin et le grec? Nous sommes en compagnie d'Augustin Dumière, qui est professeur de lettres classiques au lycée Jean Villard de Meaux, François-Xavier Bellamy, professeur de philosophie, auteur des Déshérités ou l'urgence de transmettre, et Florence Dupont, professeur émérite à l'université Paris Diderot et fondatrice de l'association Antiquité Territoire des Écarts. Florence Dupont, ça n'est pas la première réforme qui touche le latin et le grec, malheureusement. Pourquoi cet acharnement de gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, pour en finir avec ces langues?
Je ne sais pas, je ne suis pas, mais bon, on peut penser qu'il y a des économies de bout de chandelle, mais je suis d'autant plus étonnée que, en tout cas, de mon point de vue, la connaissance de l'Antiquité permet de prendre une distance anthropologique et auquel, enfin, pour des façons de vivre, hein, complètement différentes des nôtres et qui peuvent précisément, comme disait mon collègue, prendre une distance. J'ai juste donner un exemple. Il y a un an, enfin il y a deux ans, le sujet d'Antiquité dans les classes prépa était la famille. Et si on regarde par exemple la famille romaine, on est dans un cas qui est extrêmement intéressant puisqu'il s'agit d'une famille qui n'est pas fondée sur le couple. Hein. Et par conséquent, lorsqu'il y a eu tous ces débats à propos du mariage pour tous, on pouvait s'apercevoir, c'est pas une prise de position, mais que tout ce qui était dit, les discours sur une sorte de naturalisme, hein, en disant voilà, ça a toujours été comme ça, puisque à Rome, en Grèce, c'était comme ça, on peut, en brisant ce lien des origines, avoir une perspective distante, relativiste, et du coup, beaucoup mieux maîtrisée, sans doute d'ailleurs moins polémique, sur des sujets de société. Et mon voisin qui disait qu'il fallait faire interférer la connaissance de l'Antiquité, du grec et du latin avec les problèmes contemporains, je pense que c'est bon, un exemple évident.
Nous avons Thierry au standard qui nous appelle de Bretagne. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons Thierry, écoutons votre question.
Simplement, ce que j'entends est fort intéressant. Moi, simplement, je voulais témoigner en tant que chef d'établissement. J'ai longtemps travaillé dans de nombreux collèges. Simplement, pour moi, le latin est quelque chose et le grec était choisi par les familles, notamment les familles de militants FCPE, voire d'enseignants, pour mettre leurs enfants dans des bonnes classes. Donc le latin et le grec, dans de nombreux collèges de France et de Navarre, est exclusivement fait pour sélectionner les élèves et qu'ils abandonnent soit l'année suivante, soit deux ans après, parce que ça ne les intéresse plus, pour faire plutôt S que lettres classiques. Voilà, donc c'est simplement pour moi un critère de sélection et point d'autre chose. Merci.
Merci beaucoup Thierry pour cette remarque. Je dois dire qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous disent cela sur Internet. Vos invités sont formidables, dit Olivier. Mais n'oubliez pas que ces enseignements, le grec et le latin, ont avant tout servi à regrouper les élèves les plus favorisés dans des bonnes classes. C'est un témoignage. Constant, qu'est-ce que l'on peut répondre à cette remarque, Augustin Dumière? Vous paraît-elle fondée?
Elle me paraît assez fondée au 19e et au 20e siècle. Nous sommes au 21e siècle et il faut regarder, par exemple, que l'académie dans laquelle le nombre d'élèves de grec ancien a le plus progressé, c'est l'académie de Créteil, qui, à ma connaissance, n'est quand même pas l'académie la plus élitiste de France. Et qu'il est en train de s'opérer un changement. Il faut vraiment qu'on insiste dessus, qu'on en apporte la preuve, qu'on montre de plus en plus d'élèves qui, effectivement, n'ayant pas autour d'eux les repères pour réussir à l'école, étant un peu perdus par la multiplication des matières, pour lequel le grec et le latin a été une aide. Et c'est en train d'évoluer considérablement, parce que, enfin, moi, ce que je vois dans les lycées parisiens, dans les bons lycées, ça n'est plus, en tout cas, le grec et le latin comme marqueur social. Le président de la FCPE disait que c'était des matières ségrégatives. Ça m'étonnerait donc qu'il ait beaucoup défendu ces matières-là. Et je crois qu'aujourd'hui, la plupart des élèves de grec et de latin, on va les chercher. C'est des élèves qui ignoraient tout du grec et du latin. Et on va les chercher dans leur classe, on va les chercher chez eux.
François-Xavier Bellamy, qu'est-ce que vous en pensez ?
D'une manière plus générale encore, c'est toujours la même logique qui est à l'œuvre dans la déconstruction de l'école. On commence par dire que la culture est discriminatoire, du coup on déconstruit la culture, et du coup en fait, en réalité, on crée plus de discrimination encore. Parce que le latin et le grec ne sont pas simplement des artifices sociaux, comme le disait très bien Augustin Dumire tout à l'heure, et je pense que nous l'avons vécu dans notre propre itinéraire, nous le voyons aussi comme enseignants. Le latin et le grec sont au service d'une maîtrise de la culture, de l'intelligence, d'une maîtrise de sa propre pensée. Et par conséquent, en réalité, en déconstruisant l'enseignement du latin et du grec au nom du fait qu'il serait soi-disant discriminatoire, on va de fait d'ailleurs continuer de les transmettre aux enfants les plus favorisés. On en privera au contraire de manière définitive les enfants des couches les moins favorisées de la société. Et par conséquent, on augmentera encore le caractère inégalitaire de l'école. Il ne faut pas oublier qu'avec cette logique qui fondamentalement revient à Bourdieu, il ne faut pas oublier qu'avec cette logique, on a déconstruit la transmission de la culture, la déconstruction de tout ce qui constituait notre culture commune, et que nous avons construit le système scolaire le plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE. C'est la dernière enquête PISA qui nous l'a rappelé.
Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est que cette école qui s'est construite sur le rejet des humanités a construit aujourd'hui une école plus élitiste que jamais. Et ça, il faut quand même l'entendre, parce que les personnes qui nous disent « oui, c'est le grec et le latin », ça fait 30 ans qu'on tape sur le grec et le latin, et l'école devient de plus en plus inégalitaire.
Je ne dirais même pas élitiste, parce qu'à la limite, l'élitisme pourrait consister à offrir à tous les enfants les mêmes chances de réussite, mais une école scandaleusement inégalitaire et discriminatoire, parce que pour le coup, seuls les enfants des classes les plus favorisées ont une chance de s'en sortir.
Florence Dupont.
Oui, je suis absolument d'accord. Et en fait, c'est parce qu'on n'offre pas le latin et le grec à tout le monde que ça finit par un enseignement minoritaire. Un seul exemple, une de mes collègues qui enseigne en collège, comme la classe de latin était pleine, il aurait fallu en faire une deuxième. Elle a dit « non, on ne va pas en faire une deuxième. » Et du coup, ceux qui sont les moins bons n'auront pas droit au latin. Donc en fait, l'élitisme est fabriqué, enfin l'élitisme entre guillemets, est fabriqué par le système, hein, et non pas les faits. Je veux dire, c'est donc c'est scandaleusement hypocrite de dire ça.
Et puis une dernière remarque pour conclure qui vient à l'appui de ce que disait Augustin Dumière. On sait aujourd'hui que l'académie où l'enseignement du latin et du grec a le plus progressé, c'est l'académie de Seine-Saint-Denis. C'est aujourd'hui effectivement dans les périphéries, dans les banlieues, dans les lieux où la maîtrise du français est la plus difficile, que le latin et le grec sont le plus nécessaires.
Sophie nous appelle de Toulouse. Bonjour Sophie.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons Sophie.
Eh bien écoutez, ça tombe très bien que je parle maintenant parce que je viens d'écouter vos intervenants et je fais exactement partie de ces gens qui, aujourd'hui j'ai 60 ans, je suis issue d'un milieu extrêmement modeste, un papa ouvrier, une maman secrétaire et qui s'est battue pour que j'entre au lycée, à l'époque c'était pas encore les collèges, et elle s'est battue pour que je fasse du latin et du grec, ce qui m'a permis d'avoir le baccalauréat, de suite à faire des études pendant 5 années, ce qui était rare de ma génération et surtout de mon milieu. Et je trouve ça très regrettable que justement aujourd'hui, la possibilité du latin et du grec, qui est une possibilité évidemment de maîtrise du langage, de maîtrise de son intelligence et de l'intelligence des autres, ne soit plus enseignée, je dirais de façon générale, parce que on manque terriblement d'élites issues de milieux extrêmement modestes, dont je faisais partie, et on va en manquer encore plus. Et que même si ça n'était que pour former 10 000 enfants par an en France, ça serait formidable d'avoir des élites de ces petits milieux qui puissent arriver jusqu'en haut. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Merci, c'est beaucoup déjà d'avoir dit cela. Sophie, malgré tout, j'aimerais apporter un souvenir d'écolier à ces différentes remarques au sujet du latin et du grec. Augustin Dumière, lorsqu'on apprend le grec et le latin, lorsqu'on est petit, on se dit que c'est avant tout un effort de mémorisation. Et il y a les déclinaisons, il y a toute une série de choses qui ne sont pas très rigolotes. En quoi cela fait-il appel à l'intelligence de l'écolier ?
Ça a un peu changé quand même. Je peux pas aller dans une classe de troisième recruter une quarantaine d'élèves qui démarrent le grec et leur dire bon, allez, on attaque avec les déclinaisons. Je veux dire qu'il y a d'abord la connaissance de l'étymologie des mots, voir comment est-ce qu'un mot qui leur apparaît très compliqué, polymorphe, en fait devient très simple. Comment est-ce que des termes médicaux, la leucodystrophie par exemple, avec juste leucos qui veut dire blanc, dus qui est le préfixe qui veut dire mauvais et trophée nourrir devient très simple. Bref, leur montrer comment est-ce que dans l'apprentissage des langues vivantes avec un mot latin on connaît la traduction du mot en espagnol, en italien, en français. Donc c'est beaucoup plus comme ça, par la lecture de Diproie en français, qu'on intéresse les élèves, et ça n'est que dans un deuxième temps qu'on en vient à l'étude de la langue. On ne peut pas attaquer d'emblée en disant « voilà la déclinaison, voilà le nominatif ». Ça prend un temps considérable. Aujourd'hui, En seconde, il faut commencer par réexpliquer quelles sont les fonctions du nom en français, et ça peut prendre un trimestre d'expliquer à un élève ce qu'est un complément du nom, ce qu'est un adverbe ou ce qu'est une préposition. Donc, c'est à ça que ça sert aussi. C'est une remise à niveau pour les élèves, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, qui en primaire ont quitté l'école avec des lacunes gigantesques.
Alors, le grec et le latin ne sont pas des langues mortes, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Il y a des gens qui les parlent couramment. Ça se passe à Paris, dans le quartier latin. Évidemment, notre reporter Thomas Chauvineau est allé à la rencontre des membres du cercle latin. Une centaine de membres au total dans ce cercle. Anciens cheminots, normaliens, collégiens, ingénieurs, traducteurs, conseillers en téléphonie. Les profils sont variés. Les âges de 13 à 77 ans. Tous ont l'amour du latin et plus encore l'amour du latin parlé. Ils se retrouvent là une fois par semaine. La séance commence en général par la lecture d'un texte ancien, puis un thème de conversation, la venue du printemps, la liberté d'expression, et c'est parti pour 2 heures de latin, sous la houlette de Daniel Blanchard, chanteur de métier et fondateur du Cercle.
Difficile mei fuit in venire mulierem italicam, cui a pronunciationem italicam ulebam acipere pro disco. Pardon.
Je n'ai pas saisi ce que ça signifiait.
Nous parlons boutique, là. Nous parlons de la constitution d'une équipe de lecteurs pour une entreprise commerciale qui recherchait des lecteurs latins. Donc, de la difficulté de trouver des gens avec des prononciations un peu variées, parce que le latin se prononce avec encore des prononciations, on va dire, nationales. Et on cherchait donc à avoir des gens d'un panel un peu varié.
Écoutez, en Colombie, hortus sum, non franco-galus sum.
Vous parliez latin avec un accent.
Voilà, comme je disais, je ne suis pas né en France, je suis colombien d'origine et j'ai fait toutes mes études ici après le bac. J'ai eu la chance de rencontrer un Américain qui justement organisait un séminaire de latin parlé à l'école. Et
c'est important de parler.
Je trouve, oui, c'est essentiel, moi je pense, parce que je pense que le grand obstacle à l'apprentissage du latin en France et partout ailleurs, c'est qu'on ne parle pas la langue. On est toujours dans l'apprentissage de la grammaire, dans l'apprentissage par cœur et jamais dans un rapport, disons, plus sensuel, plus sensible et plus sensuel à la langue.
C'est un plaisir. Moi, je crois que c'est ça. C'est un plaisir, le latin. C'est complètement hédoniste et parfaitement libertin, quoi. Je ne sais pas comment dire, mais...
Hédoniste, ce n'est pas un mot latin, ça.
Non, c'est grec. Qu'est-ce que je pourrais dire en latin, alors
Voluptueux,
ouais. Ouais, mais c'est un côté libertin, hein, libertin.
Abut scola nostra est quoque circulus de lingua greca loquenda et sum quoque lutetia et in aris urbibus.
Naitam dia, uden lalomen perites hellenices glottas. On est passé au grec. Nous sommes passés au grec qu'on oublie souvent, qui est un peu la petite sœur oubliée. Alors évidemment, le grec, comme il a évolué, il n'a pas eu le sort miraculeux du latin qui s'est figé au IVe siècle et qui est devenu une langue immuable comme un diamant, qui est une langue qui ne meurt plus finalement, une langue immortelle. Moi, par exemple, qui suis chanteur classique, j'ai fait des tournées dans beaucoup, beaucoup de pays. J'ai fait tous les continents sauf l'Australie. Le seul pays dans lequel je n'ai pas rencontré de locuteur latin, bien qu'il y en ait, c'était en Chine. Aux États-Unis, les gens sont très, très, très passionnés, s'investissent beaucoup dans le latin. Et le latin vivant, il s'enseigne à l'université. En Italie, il y a des écoles. En Belgique, il y a des écoles bilingues, vraiment, où les gens reçoivent un enseignement en latin. Donc, en fait, c'est juste la France qui est très en retard. Je ne dis pas qu'il faut abolir l'ancien enseignement. D'ailleurs, c'est des choses différentes, mais il faut proposer des choses variées. Et je pense que, par exemple, le latin oral, étant donné qu'il y a des professeurs qui savent le faire maintenant, peut trouver sa place dans l'éducation nationale, et j'espère qu'il le fera, parce que je pense que ça pourrait participer du renouveau des cultures anciennes, qui permettra d'ailleurs aux gens, aux futurs citoyens qui sont bénéficiaires de cette éducation, de mieux comprendre notre civilisation actuelle et de mieux comprendre les défis auxquels ils sont confrontés aujourd'hui.
Et comme on est évidemment de son temps au Cercle Latin, il y a un site internet www.circulus.fr. Vous pouvez donc consulter ce site internet si vous souhaitez rejoindre ce cercle. Votre réaction à ce reportage de Thomas Chauvineau, Florence Dupont?
Oui, je crois que là il y a une confusion entre une langue de communication et la langue de culture. Et je pense que ce qui est intéressant dans le latin et le grec, c'est d'avoir le même statut que l'arabe classique ou le sanskrit. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit, par l'apprentissage d'une langue qui est effectivement... Bon, elle s'est pas figée au IVe siècle, enfin, c'est pas tout à fait comme ça que ça se présente. Donc, accès à des textes, à toute une mémoire, mais une mémoire justement qui n'est pas contemporaine. hein, et accès à toute une culture qui est différente. Et je pense que, par exemple, l'intérêt, et ça c'est du latin et du grec, c'est de pouvoir rencontrer des sociétés qui sont polythéistes. Et dans le grand débat autour des, enfin, l'enseignement du fait religieux, etc., hein, je pense qu'il serait tout à fait salutaire de ne pas oublier qu'il y a d'autres religions, en particulier des religions polythéistes, hein, et donc je dis ça parce qu'en fait ça va ensemble, c'est-à-dire que si le latin devient une langue vivante contemporaine, d'abord il est un peu bizarre leur latin, on parle pas comme Cicéron, mais du coup comment va-t-on parler, hein, donc en fait je plaide pour une langue de culture.
Une langue de culture et un auditeur de culture, une auditrice au standard, Dominique. Bonjour,
oui,
Dominique.
Alors bonjour, excusez-moi, mais malheureusement, mon discours est un petit peu moins optimiste en ce qui concerne le latin. Je viens un tout petit peu à contre-courant de
Nous acceptons tous les discours, Dominique, y compris les discours pessimistes tous.
D'accord, non, c'est pas pessimiste. Les témoignages sont tellement intéressants sur ce que vous dites. L'enseignement du latin semble avoir beaucoup changé. J'ai 60 ans, un peu plus même, et j'ai été élève en collège. Jusqu'en seconde, j'ai étudié le latin. C'est la seule matière où j'ai obtenu des notes négatives, avec des moins 8, moins 10, moins 15, les meilleurs ayant 2 ou 3. J'ai passé énormément de temps à faire des versions et des thèmes qui ne m'ont rien apporté à l'époque, bien entendu, comme adolescente, comme connaissance de la culture ancienne. Les adolescents en général ne s'intéressent pas à ça, donc je pense qu'il est peut-être un peu dommage de faire du latin en collège. J'adore les langues. J'ai deux casquettes, celle de l'ancienne élève en collège qui pouvait pas sortir alors que les autres s'amusaient parce que j'étais devant ma version latine, et la deuxième casquette, c'est celui de prof de langue vivante. Je suis prof d'anglais. Je constate quand même, à ma grande honte, que les Français sont très mauvais en langue vivante. Peut-être s'agirait-il aussi de donner un petit peu plus d'horaire aux langues vivantes. J'avais d'ailleurs décidé que jamais mes enfants n'étudieraient le latin en collège. Ils ont fait 3 langues vivantes chacun, y compris le chinois. Et le temps n'est pas étirable, on ne peut pas en donner autant à toutes les matières. Et je constate aussi, comme prof de collège, que les élèves, en général, déjà en fin de quatrième et presque toujours en troisième, abandonnent le latin. Alors j'espère me tromper. Moi, j'adore les langues. D'ailleurs, j'apprends encore l'allemand là actuellement. Je suis absolument heureuse d'avoir fait du latin, en particulier pour l'apprentissage de l'allemand. Mais pour moi, c'est un intérêt d'adultes ou d'élèves plus âgés. Mais pour des élèves petit, peut-être que je me trompe, et j'espère de tout mon cœur me tromper, mais je pense un petit peu trop optimiste et un petit peu élitiste, et voilà.
Vous avez des doutes à ce sujet. Merci beaucoup, en tout cas, Dominique, d'avoir exprimé cette opinion. Augustin Dumière, que peut-on répondre à Dominique? Est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier les langues vivantes? En quoi le fait d'apprendre le grec et le latin favorise-t-il l'apprentissage d'autres langues? Ou bien l'intérêt du grec et du latin est-il ailleurs?
Alors d'abord, ce qu'on peut répondre, c'est que maintenant, aujourd'hui, il est tout à fait possible, et les élèves ne s'en privent pas d'ailleurs, d'arrêter le grec et le latin, avec les élèves qui font du latin contraint et forcé et qui n'a plus de notes négatives. Par ailleurs, sur les langues vivantes, il me semble que pour un professeur d'anglais ou d'espagnol, faire apprendre une langue à un élève qui n'a pas la maîtrise des temps, qui ne maîtrise pas la nature des mots, est quelque chose d'assez compliqué, et que le seul endroit où un élève peut, au collège ou au lycée, rattraper des lacunes fondamentales dans la connaissance de la langue française, c'est en grec ou en latin. Et par ailleurs, c'est vrai que la seule connaissance, par exemple, moi j'ai fait juste anglais, latin, grec. Les élèves me disent, par exemple, ils m'ont dit, quand j'écris par exemple l'imparfait en latin au tableau, ils disent, monsieur, c'est la même chose qu'en espagnol. Une élève me dit, par exemple, c'est mot pour mot, c'est le même mot en italien. Quand vous prenez la racine cadere, vous avez la traduction quasiment mot pour mot en espagnol, en italien. Le problème, c'est que là, le professeur de lettres classiques est limité par la connaissance qu'il a des langues vivantes. Mais c'est une manière de montrer, alors qu'aujourd'hui l'élève s'éparpille dans plein de matières dans une journée de classe, à quel point il y a une unité dans le savoir, et c'est le latin et le grec qui peuvent conférer cette unité à la journée de classe.
Votre réaction, Florence Dupont?
Oui, ben, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire mon voisin. Et en plus, il y a à la fois l'apprentissage du français et l'apprentissage d'un langage différent. Et les mathématiciens, en particulier, insistent sur le fait que passer d'un langage à l'autre, c'est ce que eux enseignent. Et parce qu'on peut prendre le latin par le bout de l'étymologie des mots, on peut le prendre aussi par la syntaxe. Et la syntaxe est radicalement différente du français. Hein. Et c'est d'ailleurs extrêmement intéressant de le montrer. Hein. Alors, je ne sais pas à quel âge il faut le faire, hein, mais le système de organisation de la phrase, d'ailleurs, ressemble un peu à celle de l'allemand, hein, puisque c'est un système de petites boîtes les uns contre les autres, les unes dans les autres, et qu'il faut attendre la fin pour comprendre. Voilà, donc c'est juste... Disons que c'est complémentaire de ce que vous avez dit.
Gilles nous dit également qu'apprendre le grec permet de comprendre Nana Mouskouri dans le texte, un autre avantage auquel on n'avait pas suffisamment songé. On va d'ailleurs écouter Finlay Quay Shine et tout de suite après essayer de comprendre les avantages du grec et du latin.
Service public 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Sunshine, early morning, sun rays on a frosty morning, it's time to shine. Walking on fallen leaves, no one's sure that she believes, it's time to shine. Sunshine on a summer's day, sunshine take my blues away, sunshine make me feel alive. Sunshine make me wanna live. Sun kissing me on my mind. Sun kissing me on my mind. Sun kissing me on my mind. You're starting to shine. Sunburst, it's a brand new sign. Sun kissing me on my skin. Walking on falling leaves, no one's sure that she believes. It's time to shine. Sunshine on a summer's day, sunshine take my blues away. Sunshine make me feel alive. Sunshine make me wanna live. Sun kissing me on my mind. 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 You're starting to shine. Starting to shine. You're starting to shine. I don't wanna leave you on. I just wanna turn. Sunshine took my blues away. Sunshine make me feel alive. Sunshine make me wanna live. Sun kissing me on my mind. Sun kissing me on my mind. Sun kissing me on my mind. You're starting to shine. You're starting to shine. Starting to shine.
Service public sur France Inter, à quoi servent le latin et le grec, avec un auditeur un peu particulier au standard puisqu'il s'agit du ministère de l'Éducation nationale représenté par Florence Robine. Bonjour Florence Robine.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, très bien. Merci.
Eh bien, nous vous écoutons car vous avez suivi l'émission sur cette réforme du latin et du grec. Alors, faut-il être paranoïaque ? Avez-vous l'intention de tuer les langues mortes ?
Alors là, certainement pas. Moi, je voudrais vraiment dire que notre intention n'est absolument pas de supprimer le latin et le grec, plutôt au contraire d'en permettre l'accès au plus grand nombre. Donc, je rappelle déjà que dans le programme de français pour tous les petits élèves du collège, il y aura une première sensibilisation à l'influence et à la culture et à l'origine latine et grecque de la langue française, parce qu'on est persuadé que ça peut aider les enfants, effectivement, à mieux comprendre et maîtriser le français. Et que d'autre part, dans les enseignements pratiques interdisciplinaires, il y en aura un qui sera spécifiquement consacré aux langues et cultures de l'Antiquité. Je pense que ça peut être une approche extrêmement intéressante, à la fois civilisationnelle, interactive, interdisciplinaire, qui permettent, je pense, d'encourager les élèves à y aller. Voilà. Mmh. Et puis d'autre part, des enseignements de complément qui sont tout à fait notables, avec des heures tout à fait raisonnables, en cinquième, en quatrième et troisième pour les élèves volontaires qui voudraient encore aller plus loin. Donc non, nous n'avons absolument pas l'intention de supprimer le latin et le grec.
Alors la réponse, ou plus exactement la réaction d'Augustin Dumière, qui est professeur de latin et de grec et qui est à côté de moi.
Oui, bonjour madame. Ce que vous venez de dire me semble relativement inexact, dans la mesure où vous demandez à des professeurs de français d'enseigner le grec et le latin, et vous savez très bien comme moi que on peut aujourd'hui et depuis plusieurs années devenir professeur de lettres sans avoir jamais fait de grec et de latin. Dans ce cas-là aussi, pourquoi pas demander à l'intendant du collège d'enseigner le grec et le latin, a priori il serait aussi compétent.
S'agissant des autres pays, pour vos collègues, et puis nous ne demandons pas aux professeurs de français d'enseigner le latin et le grec, c'est évidemment toujours des professeurs de lettres classiques qui interviendront dans l'enseignement de langue et culture de l'Antiquité.
Mais je viens de vous entendre dire qu'en français, les élèves allaient faire du grec et du latin.
Non. Il y aura une sensibilisation, comme c'est beaucoup demandé. Je pense que les professeurs de lettres ont été formés aussi pour ça, de façon à ce que les élèves soient conscients, en particulier du point de vue de la grammaire, du point de vue de l'étymologie, de l'influence et de l'origine grecque et latine de la langue française. Donc, c'est pas du tout un enseignement du latin et du grec. C'est une première sensibilisation qui, je pense, les incite. D'abord, il y aura à participer, et ça sera fait dans les établissements, à cet enseignement interdisciplinaire des langues et cultures de l'Antiquité, et puis apprendre l'enseignement de complément uniquement pour les élèves volontaires, qui sera évidemment enseigné par des spécialistes, c'est évident.
Florence Dupont aimerait réagir.
Juste une remarque, c'est que dans le projet de réforme, le mot grec n'est même jamais présent.
Et par ailleurs, on peut quand même dire que ces enseignements...
Langues et cultures de l'Antiquité, je pense que ce que tout le monde comprend de quoi il s'agit, et tout ça, évidemment, demandera à être précisé dans des programmes. Nous n'en sommes pas encore au stade des programmes. Il s'agit des réformes structurelles, c'est-à-dire des grandes organisations. Ce que nous assurons à l'heure actuelle, c'est la place des langues et cultures de l'Antiquité. Évidemment, ça comporte le latin et le grec, c'est une évidence.
François-Xavier Bellamy, vous vouliez réagir?
Oui, simplement, quand on transforme l'apprentissage des langues en sensibilisation à la conscience de l'histoire, de l'étymologie, les élèves ne peuvent même pas comprendre comment le latin et le grec ont contribué à la formation des mots, puisqu'ils ne les connaîtront pas. Et quand on transforme l'apprentissage du latin et du grec en enseignement interdisciplinaire des langues et cultures de l'Antiquité, en fait, en réalité, concrètement, au-delà des discours lénifiants, en fait, en réalité, on supprime le latin et le grec.
Dire une chose pareille. C'est absolument faux. Je viens de vous expliquer qu'il y avait trois étages, si je puis dire, de la fusée. D'abord dans le cours de français, parce que je pense que c'est important que les élèves...
Mais qu'est-ce que ça veut dire, madame, concrètement, une sensibilisation à l'histoire des langues?
Ça ne remplace absolument pas l'enseignement du latin et du grec, on est d'accord. Ça, c'est un premier point. Et d'autre part, je répète qu'il y aura à la fois l'enseignement interdisciplinaire sur les langues et cultures de l'Antiquité, et en plus un enseignement de complément sur la langue latine, sur la langue grecque, pour les élèves volontaires dans les collèges. Alors, c'est difficile de faire beaucoup plus que d'assurer qu'il y ait ces trois éléments en même temps. Pour tous les élèves dans le cours de français, je pense que c'est important de faire ce lien. C'est important qu'il y ait ça dans les enseignements interdisciplinaires. Et là, il s'agit d'une approche linguistique et culturelle. Et l'enseignement de la langue dans des enseignements de complément avec des horaires réservés en plus de l'horaire habituel pour les élèves volontaires faits par des spécialistes.
Merci Florence Robin d'avoir eu l'envie d'intervenir. C'était important. Ensuite, on jugera sur pièce la réforme et ses conséquences sur le latin et le grec. Tout autre chose, Mathieu nous demande comment sait-on, comment on prononce le latin. Il a entendu le reportage de Thomas Chauvineau et il se demande comment on fait pour parler le latin et le grec puisqu'on n'a pas d'enregistrement. Florence Dupont.
Non, mais je crois que là, d'abord, est-ce que ça a le moindre intérêt? Et ensuite, de le prononcer. Cela dit, il y a différentes. Non, mais je dis ça, c'est important parce qu'il y a différentes façons de prononcer le latin. Il y a eu ce qu'on appelle la prononciation restituée. Plutôt les U sont prononcés OU, puisque tout le monde sait que le U est une, vient du gaulois. Bon. Et puis, mais je veux dire, ça se trouve dans toutes les, au début d'une grammaire latine. Aujourd'hui, on prend et on voit la prononciation, comme dans tout manuel de langue.
Augustin Dumière. On peut juste répondre à ce que Florence Robin vient de dire, à ces fameux trois étages de la fusée. Le premier étage, en fait, elle vient nous expliquer que c'était pas un apprentissage du grec et du latin. Le deuxième étage, c'est donc les EPI, qui sont des enseignements transversaux. On n'apprend pas une langue, c'est censé justement réinvestir ce que l'élève apprend ailleurs. Et le troisième étage, c'est l'enseignement de complément, qui dit bien ce qu'ils veulent dire, qui divise par trois le nombre d'heures de grec et de latin. Il y a un personnage, je crois, dans la littérature tout à fait plaisant, qui s'apprête à partir pour un bal costumé et est un peu gêné parce qu'on vient de l'informer de la mort de son cousin. Et il n'a pas envie de rater son bal et il dit « Il est mort, mais non, on exagère. » Bien là, on vient d'avoir le duc de Guermantes au téléphone.
Bien, bah écoutez, on verra comment cette réforme s'appliquera. François-Xavier Benhamy, un mot de conclusion.
Sachant que, comme le disait Augustin Dumière, effectivement, ces EPI seront à la disposition des proviseurs et donc, non pas proposés dans tous les établissements, mais seulement dans ceux où on pourra les proposer. Il faut signaler pour conclure que ce qui est en train de disparaître objectivement et authentiquement, c'est la possibilité d'une liberté. Tout à l'heure, on disait que le latin était une langue libertine, je ne le crois pas, mais c'est une langue de liberté, le grec aussi, et la philosophie emporte tout entière le témoignage. Et c'est peut-être de cette liberté que nous privons les générations qui nous suivent.
Un mot de conclusion. Juste, le ministre a dit récemment sur BFM qu'il y avait 6 chances sur 8 de faire du latin. Il y en a beaucoup moins, mais déjà là, c'est monstrueux. Puisqu'il y a ceux qui auront la chance et ceux qui ne l'auront pas.
Merci à tous les trois d'avoir été avec nous pour parler de manière vivante des langues anciennes. Voici maintenant le rendez-vous du médiateur de Radio France.
Le rendez-vous du médiateur sur France Inter.
Le médiateur de Radio France, je veux dire le vrai, le premier, pas celui qui fait le médiateur pendant la grève, Bertrand Vanier. Vous vouliez nous dire où nous en étions après cette grève et vouliez nous donner des nouvelles des auditeurs.
Exactement, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Il faut savoir terminer une grève. Tout le monde connaît, à peu près, la formule de Maurice Thorez. Pour ceux qui ont un trou de mémoire, elle remonte à juin 36, alors que venaient d'être signés les premiers accords de Matignon. Tout le monde connaît, enfin pense connaître, car la formule complète, c'est « il faut savoir terminer une grève dès que satisfaction a été obtenue ». Je me suis permis de rappeler cette formule, car je crois qu'elle s'applique plutôt bien à ce qui s'est passé à Radio France. Hier, la grève avait été reconduite pour un 29e jour, en dépit de la décision de 4 des membres de l'intersyndicale d'appeler à la reprise du travail. À l'appel de la seule CGT, la grève a donc continué une journée de plus, le syndicat ayant décidé de lever son préavis après une ultime assemblée générale. La grève s'achève officiellement aujourd'hui à 13h. Radio France a donc connu sa grève la plus longue, cela est un fait, mais quant à savoir si la satisfaction a été obtenue, là le débat est ouvert et cette incertitude, ce questionnement, le médiateur que je suis, le médiateur de Radio France, je le précise, cette incertitude, donc ce questionnement, je les ai ressentis à la lecture des centaines de messages d'auditeurs reçus pendant le conflit.
Alors, pour répondre à cette demande, votre site, Bertrand Vanier, propose un ensemble de données brutes.
Sur le site espacepublic.radiofrance.fr, vous trouverez en effet tous les messages reçus depuis le 19 mars, sauf les messages contenant des insultes, la totalité des communiqués syndicaux, prise de position de la direction, courrier du président, lettre du médiateur, l'autre, encadré sur le budget de Radio France, le statut des salariés, etc., etc., etc. Cela permet de mieux comprendre ce qui s'est passé. Cela dit, nombreux sont les auditeurs qui réclament des émissions spéciales sur les antennes pour expliquer les tenants et les aboutissants de ce conflit.
Alors, les auditeurs, justement, que vous ont-ils dit, que nous ont-ils dit pendant ces 29 jours, Bertrand ?
Pour essayer de résumer, il y a eu trois temps. Au début, une majorité de réactions négatives sur le thème, encore une grève de nantis, de privilégiés, de planqués. Deuxième temps, un soutien assez massif aux grévistes par des auditeurs qui demandaient que l'on protège leur radio, leur service public. Troisième et dernier temps, ces derniers jours, un net ras-le-bol sur la prolongation du conflit qui pourrait se résumer ainsi. il faut savoir terminer une grève. J'ai donc apporté avec moi, Guillaume, quelques messages qui résument les positions des pour et des contre. Pour, par exemple, Jean-Jacques qui écrivait la semaine dernière « Je soutiens votre mouvement, mais je suis privé de cerveau à cause de cela ». Pour aussi et plus politique, François, avec cette question « Pourquoi l'État, encore une fois, se désengage-t-il de ses devoirs, dont l'un essentiel est d'assurer l'accès à une culture indépendante des intérêts financiers ? Il faut que Radio France persiste telle quelle, un merveilleux moyen de culture. »
Alors, et les contre, Bertrand ?
Ils étaient en général plus brutaux. Exemple Bernard, le pays a continué à l'évidence de tourner ni mieux ni plus mal, comment peut-on être à ce point suicidaire ? Autre coup de gueule, Laurent, ma radio, vous les 10% de grévistes, vous la faites fonctionner ou vous la quittez ? Vous êtes devenu dingue, formule envoyée avant-hier par Michel. Au milieu de tous ces messages, pour ou contre, il y en a eu beaucoup qui, sans prendre parti, penchaient plutôt du côté de l'ironie. Exemple, celui d'Alain. Message à transmettre à votre ministre. Suite à une grève qui m'a privé des émissions de France Inter, je ne serai pas en mesure de m'acquitter de l'intégralité de la taxe sur l'audiovisuel. Je vous prie de m'en excuser. Je termine avec quelques extraits d'un long courriel envoyé par Françoise. À sa lecture, on ne sait pas si elle est pour ou contre la grève. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'elle est pour Radio France. Je la cite. Comment imaginer qu'on puisse nous priver, nous auditeurs, auditeuses, de la source la plus précieuse d'enseignement, de plaisir, de rencontres, de culture, d'émotions, de présences humaines, d'envie, d'engagement, et j'en passe. Radio France est là chaque jour pour ceux qui l'écoutent, fidèle, chaque longueur d'onde avec ses spécialités. Pitié, ne mélangez pas tout, ne privez pas la France de ses richesses à portée d'écoute, de ses concerts gratuits, de ses débats qui aident à comprendre le monde. Ne cassez pas Radio France, j'en ai besoin. C'est absolument vital pour le plus grand nombre et pour notre santé à tous. Mon cher Guillaume, va falloir être au niveau.
Bah, c'est ce que l'on essaye de faire chaque matin avec Service Public, par exemple. Notamment avec ce débat sur le grec et le latin proposé à un horaire de grande écoute avec trois représentants distingués de ces humanités auxquelles nous tenons et que Radio France défend chaque jour. Demain, dans Service Public, on parlera d'autre chose après de la gymnastique cérébrale, la gymnastique pour les jambes, puisque nous parlerons du jogging. Voilà, vous savez, avoir un corps sain, un esprit sain, c'est important. Merci à tous. Merci à vous, Bertrand Vanier. On vous retrouve dans 15 jours.
Le marathon, c'est grec.
Merci à vous. Et donc, on essaiera. Marathon, c'est grec, vraiment ? Florence Dupont.
La course elle-même, non ? C'est une invention récente.
Une invention plus récente, mais malgré tout, une pratique qui peut se faire désormais un peu partout. On voit qu'il y a donc de nombreuses racines grecques et latines. Et demain, on retrouvera effectivement d'autres choses sur le fait d'apprendre à courir, même si le médiateur de Radio France, lui, préfère faire du vélo. Je sais, Bertrand Vanier, que c'est ce que vous préférez. Voilà, donc nous attendons toutes vos questions sur le jogging.